Vous écoutez
RMC.
C'est n'importe quoi, y'en a marre.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
C'est quoi ce cirque ?
Jean-Christophe Drouet.
Ah, heureusement les amis, on n'aime pas tous ces sports. Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau très beau dimanche, les GG du sport. Sachez-le, chers auditeurs, qui vont se poursuivre tout l'été, vous retrouverez vos grandes gueules du sport préférées en juillet, en août. Cette émission ne s'arrête jamais, pour ma part. Vous le savez certainement, c'est ma dernière dans cette fabuleuse émission. 5 saisons de bonheur, de débat avec vous, les auditeurs, avec vous, les GG. Il y aura un petit coucou en fin d'émission. Restez jusqu'au bout, même vous, les GG. Hein. Tout le monde va en prendre pour son grade. Évidemment, on va relever les copies. Au sommaire aujourd'hui, Remco Evenepoel piégé de la casse dès la première étape. Des écarts qui peuvent se creuser dès la première semaine. Jonas Vingegaard, l'outsider quelque part, doit-il tout tenter dès les premiers jours? Ce sera la une des GG. À 10h, le PSG résiste à tout, au vent contraire, aux difficultés. Ce matin, les Parisiens sont en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Le mental de ces Parisiens est-il finalement le plus impressionnant? Ce sera le bras de fer des GG, le PSG qui va affronter le Real de Kylian Mbappé en demi-finale. Et puis 11h, Netflix et le Tour de France, bah c'est déjà terminé. Après 3 saisons à suivre le peloton, les coureurs ne sont pas mécontents. L'arrêt de Netflix, est-ce que c'est un bien ou un mal pour le vélo? On posera la question. Allez, je vous présente les grandes gueules ce matin. Une grande gueule qui, comme moi, il a du mal à dégager, Christophe Cessieux. Simon Dutin, salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde.
Ça va?
Ouais, on essaye, hein, tu l'as dit, hein, 5 saisons... On t'en fera la 6e, on reviendra.
Oui. Allez Simon, je crois en toi. On l'aura un jour, comme disait une célèbre publicité. Une grande gueule qui, comme moi, n'a jamais gagné Roland-Garros. Julien Beneteau, salut Julien.
Salut JC.
Oh là là.
Ouais, ben, merci David. Eh oui, oh là là.
Ouais. Ça va Jules?
Oh là là.
Ouais. Ah, si vous n'êtes pas venu pour vous marrer, c'est aujourd'hui.
Ah, bien sûr qu'on est venu pour se marrer.
Avec de la conviction, vas-y, s'il te plaît, Julien. Tout va bien?
Tout va bien, content d'être
là. C'est un back-to-back, t'aimes bien le back-to-back de faire le samedi et le dimanche?
Ouais, c'est bien, je trouve. Il y a des débats qui se ressemblent un peu parfois, en fonction du.
Comment ça, des débats qui se ressemblent un peu? Alors là, ce serait vraiment la première fois que je fais ça sur un week-end, mon cher Julien.
Mais non, ça va, content.
Une grande gueule qui, comme moi, il a réalisé ses plus belles performances en peignoir, David Douillet. Salut David.
Eh, c'est pas dire. Et t'as rien vu quand le peignoir a été enlevé?
Non, non, et en plus, il est 9h10. J'ai pas envie de ça le matin. Ça va, mon David?
Ouais, ça va super, moi je suis toujours heureux de t'entendre.
En peignoir.
Et malheureux bientôt, mais qu'est-ce que tu veux? On va voir.
Mais oui, c'est la vie, c'est un éternel recommencement. En tout cas, les GG, vous allez cartonner encore la saison prochaine avec mon cher David Douillet, évidemment. Et puis une grande gueule qui, comme moi, il peut descendre, mais alors tranquillement, les Champs-Élysées. Fred Le Canut, salut Fred.
Ça dépend à quelle heure. Le matin, c'est très dur parfois parce que on me reconnaît toujours pas. Vous allez bien?
Mais oui, ça va avec toi, Fred.
C'est déjà fini?
Oui. Oh, t'es petit nouveau, ça fait combien de temps que t'es avec nous? 3 mois?
Oui, 3 mois, mais je suis surtout venu, je pense, pour vous expliquer.
Pour ouais. Sortir JC, t'es
pas. Bah, ouais, les bonnes questions, Fred.
C'est grâce à David que je suis là, comme personne comprend toujours ce qu'il dit, je serai là pour traduire sa pensée.
Et c'est pour ça, tu l'auras remarqué, à chaque fois qu'il y a David, je mets Fred à côté.
J'ai vu ça. Et moi, j'ai les photos de David sans peignoir, si vous voulez.
Très bien. Et ben, on va montrer ça, évidemment, sur les réseaux sociaux. Dans les grandes gueules du sport, un très beau cadeau à vous faire gagner ce matin. On fête, évidemment, le départ du Tour de France RMC avec Mondial Relais, partenaire majeur du Tour de France. On vous propose de vivre une expérience incroyable lors de la dernière étape. Ce sera le dimanche 27 juillet. Vous et la personne de votre choix, vous pouvez vivre une expérience unique pour gagner ce magnifique cadeau, un pack complet avec Mondial Relais. Vous envoyez Tour à partir de maintenant au 732-16. Tour au 732-16. Le grand gagnant sera avec nous dans cette émission. On va débuter justement ces grandes gueules du sport avec cette citation de Paul Carvel qui a dit un jour: attendre sa chance en vain, la tenter ne suffit pas. Il faut la forcer.
RMC.
La une des grandes gueules du sport.
Maria, on est ravis. Tu vas donc débuter ton premier Tour de France sur la moto.
C'est la première fois de ma vie que je vais monter sur une moto, mais ça pourrait être une belle
aussi,
descente de col.
Bien, tu vois. Il a pas.
Et il y a de l'ambiance ici. Il y a énormément de monde à Sainte-Forde. Vous, votre favori aujourd'hui, c'est qui?
Philipsen.
Très bien. J'ai donné Philipsen favori aussi. Donc on est sur la même longueur d'onde, Bernard.
À l'instant même, la flamme rouge du dernier kilomètre.
RMC, la flamme rouge.
Ouais, ça envoie là sur le côté droit de la route. Et du côté de Jasper Philipsen, on va avoir ce petit train. Binyam Girmay est sur le côté droit. La lutte avec Jasper Philipsen, on va surveiller sur la droite de la route. On a du mal à voir au niveau de la perspective, mais de toute façon, ça passera pas à droite, ça passera à gauche. Philipsen. Avec Jasper Philipsen en force. Jasper Philipsen qui va s'imposer devant Binyam Girmay. À Lille, c'est Jasper. Ce n'est pas le disaster, c'est le best Jasper qui s'impose. La France, le Chili, on les gamelles,
les buvelles, on les bidons. Avec nous, dès ce matin, une GG évidemment, direct de Lille, Jérôme Pinault. Salut Jérôme.
Salut JC, salut les copains. Salut.
On est très heureux de te retrouver. On vous sent déjà affûté, hein. Jérôme Pinault, Jérôme Coppen. Non mais surtout, ils sont déjà très drôles dans l'intégral tour. Franchement, écoutez cette émission à partir de 14h.
Ils ça sont absolument. Ils sont meilleurs au tour qu'au G.
J'ai trouvé que Benetto était un peu mou ce matin, mais d'un coup, il a retrouvé du jus.
Dès qu'il faut égratigner les copains, il est là. Hein, tu
dès
le connais.
Il faut taper sur les cyclistes.
Je comprends. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, pendant 4 heures, ils sont à côté de Christophe Cessieux. Donc là, forcément, ils sont obligés de se mettre entre se chauffer. Toi.
Ah oui, il est dur. Il est dur avec eux, évidemment. Alors, à première.
Ça va. On se régale.
Après cette première étape promise aux sprinteurs, avec la victoire, vous l'avez entendu, de Jasper Philipsen, place désormais aux puncheurs, aux étapes pièges, aux bordures. Et à ce jeu-là, il faut bien le dire, la Visma is a bike excelle pour semer la zizanie. C'était déjà le cas hier. L'équipe de Jonas Vingegaard pourrait gagner de précieuses secondes cette semaine si l'affaire tourne bien avant d'attaquer la montagne et d'affronter le redoutable Tadej Pogacar. La musique qui fout les jetons. Et cette question, Jonas Vingegaard doit-il tout tenter la première semaine? Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
Fred Le Canut?
Non.
David Douillet?
Ah, moi, je pense que oui.
Oui. Julien Beneteau?
Oui, presque.
Oui, presque aussi. Jérôme Pinault?
C'est un événement, je suis d'accord avec David Douillet, oui.
Oh là là, je suis tombé par terre.
Encore un coup de couteau. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial sur le tour qui n'a donc pas l'habitude de la moto, mais qui prend tous les risques pour RMC, Maria Azé. Salut Maria.
Salut JC, salut à tous.
Maria, juste, entre nous, très bonne première. Hein. Bravo, chère Maria. Attention, il y a trois semaines.
Il reste 20 étapes. Ça se termine gentiment.
Alors,
elle est parfaitement coachée par GG Kopp et GG Pin. Attention.
Ah, ça rigole pas. Hein. Le soir, j'ai un débrief. Ça rigole pas.
Elle est cadrée.
Alors, je parlais de la première semaine qui pourrait peut-être chambouler ce Tour de France. C'est en tout cas ce que recherchent les organisateurs.
Oui, 10 jours de plaine, mais pas tant de plaine que ça. Finalement, hier, c'était censé être une étape de sprinter. Au final, le vent a rebattu les cartes. Et celui qui en a fait les frais, c'est le champion olympique Remco Evenepoel, qui perd déjà 40 secondes sur Vingegaard et Pogacar.
Je pense qu'on s'est endormi un petit peu parce que toute la journée était bien devant, on était bien groupés. Et puis j'avais l'impression que le peloton était assez calme et on pensait que ça allait juste rentrer à l'arrivée pour faire un sprint massif. Ça casse, il y avait la bordure et on était tous dans le deuxième groupe. Donc je pense que c'est une grande faute collective de notre part. Mais maintenant, il faut regarder vers l'avant. Ça s'est passé comme ça, c'est dommage, mais c'est comme ça.
Tadej Pogacar l'avait prédit en conférence de presse jeudi. Les 10 premiers jours sont très très piégeux.
Tu peux perdre le tour sur les 10 premiers jours, mais je peux aussi voir cette semaine en opportunité. Il y a de gros finales, des étapes difficiles. Mon but n'est pas forcément de gagner beaucoup de temps, mais c'est surtout de ne pas tout foirer. Not screw it up.
Et notamment l'étape d'aujourd'hui et l'arrivée à Boulogne-sur-Mer. C'est la plus longue étape de l'été avec ses 209 km et 2550 mètres de dénivelé positif. Et les 10 derniers kilomètres promettent un festival de côte avec des pourcentages allant jusqu'à 15%. Pas du tout une étape de sprinter. Donc on devrait voir le maillot jaune changer de porteur pour plutôt un puncher aujourd'hui, voire un grand favori. Jonas Vingegaard se sent en forme et on l'a vu hier avec son équipe.
Je suis plus fort que jamais. Et non, je n'ai pas peur de Tadej, sinon je ne serai pas au départ. Nous verrons si c'est suffisant.
Le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, lui, assure qu'on aura un gros spectacle.
Et oui, il y aura une bagarre, ça c'est certain. Je parierai là-dessus. Il y aura forcément une bagarre entre les favoris. L'un ou l'autre des favoris va attaquer, j'en suis certain, dans le final. Le final de Boulogne, il est redoutable.
Et le reste du parcours de ce début de tour est un peu dans la même dynamique. Mardi, jeudi et vendredi, les étapes de plaine se transforment en véritable casse-pattes, notamment à l'image de l'arrivée à Mur de Bretagne. Ce sera vendredi prochain.
Merci beaucoup Maria Azé pour toutes ces précisions. Jonas Vingegaard doit-il tout tenter la première semaine? C'est notre premier débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Jérôme Pinault, pourquoi oui?
Oui, parce que l'équipe de Jonas Vingegaard doit tout tenter. Jonas Vingegaard, il doit juste faire une chose, c'est être vigilant comme il l'a fait hier. On a vu hier que le collectif Visma Liesebike est plus costaud sur ces étapes-là, en tout cas plus impliqué que l'équipe UAE. Hier, 40 coureurs devant, 5 Visma, 2 UAE, Velens et Pogacar. Pour éliminer Pogacar, ça va être compliqué, mais en tout cas pour le harceler pendant 10 jours, il doit le faire, il doit tout tenter. Pourquoi ? Parce qu'il y a du vent tous les jours. Je me lève ce matin, on ouvre les volets et il fait quoi ? Il pleut. Et il y a du vent. Aujourd'hui, 50 km de l'arrivée, il y a vent de côté. Il a une équipe très forte pour cela. Il pourra peut-être compter aujourd'hui sur Van Aert qui a loupé le coup hier. Donc ça lui permettra à minima d'éliminer tous les pseudo-outsiders derrière ces deux gouttes-là. Et pourquoi pas, un jour, mettre en difficulté Pogacar. Alors peut-être pas sur ses 10 premiers jours, mais en tout cas sur la suite du tour, il va déjà mettre à contribution Tadej Pogacar, mettre à contribution ses équipiers. Et il n'y a que comme ça qui peut éventuellement renverser le Slovène. Donc il a intérêt à utiliser toutes les étapes, et ce dès hier, puisqu'on l'a vu, c'est quand même cette équipe-là, Visma Liesebike, qui a assumé ce qu'elle a dit. Elle a mis le bazar, elle va essayer de renverser le roi que tout le monde prédit déjà vainqueur à Paris. Ben, c'est loin d'être fait, tous les jours il faut harceler ce coureur, et c'est ce que fait très bien l'équipe de Jonas Vingegaard.
Fred Le Canut fait la moue.
Bah oui, je fais la moue parce que la réponse que je viens d'entendre, c'est exactement ce que je voulais dire, donc c'est bien non. C'est pas est-ce que Vingegaard doit-il tout donner, c'est la Visma qui doit tout donner. En fait, lui,
oui, mais
lui,
c'est sous les ordres de Vingegaard.
Ouais, mais malgré tout,
sur
malgré
une semaine
tout,
comme ça, Fred, sur une semaine comme ça, il va pas attaquer lui tout seul. C'est pas possible. C'est la force collective. C'est bien, c'est là où on voit que
c'est ce que je te dis. Exactement.
Alors, retourne-toi vers Jean-Christophe et sa question qui est mal tournée, qui est pourrie.
Non. Jean-Christophe a posé une belle question.
Ah, ça commence comme ça.
Non, mais justement,
Julien qui veut prendre la place.
Non, mais on sent le mec qui sort les dents, David. T'as vu? Non, mais ce que je veux te dire, c'est justement, c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce qu'il doit tout tenter ? Bah, c'est son équipe qui doit tout tenter pour lui le favoriser. C'est ça en fait le truc, c'est que là, ce que j'entends, c'est pas Vingegaard de prendre les risques de manière absolue. Et il a un soutien énorme avec des profils qui peuvent l'aider jusqu'au 14 juillet à peu près. C'est de mémoire, c'est le Puy de Sancy, je crois, où là après ça va se déliter.
Et donc, Mondor, ouais.
Voilà, donc c'est pour ça que la réponse, c'est la Visma qui doit tout tenter.
Ok, la Visma qui doit tout tenter. Julien oui. Benneteau.
Non, mais Fred, il joue sur les mots. Parce que moi aussi.
Ce n'est que mon métier.
Dans les notes que j'ai préparées, c'est ça. C'est, j'ai dit oui, Vingegaard doit tout tenter. Et en fait, il doit s'appuyer sur son équipe qui est très forte. Et son équipe doit tout faire. Mais si Vingegaard ne donne pas l'ordre à ses équipiers de y aller, c'est que ils y vont pas. Donc exactement. Si voilà, si hier ils ont commencé un premier coup de butoir, c'est parce que Vingegaard a dit les gars.
C'est Jonas Vingegaard, le détonateur. C'est ce que tu veux nous dire, mais pardonnez-moi la question.
C'est Mickey à la baguette, les garçons. C'est Mickey à la baguette. Si Jonas se lève ce matin, il dit j'ai peur, j'y vais pas, on n'y va pas parce que je suis frileux, on attend la montagne, ils y vont pas. Donc c'est lui, le patron, qui dit les gars, on remet une couche. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il va en remettre une couche parce que hier ça a marché. Il est en pleine confiance. Si Jonas Vingegaard donne le tempo, c'est lui le patron. Si lui veut aller de l'avant et être offensif et faire all-in tous les jours, ils vont le faire.
Moi, je suis d'accord avec Jérôme. Je pense qu'il y a que comme ça qu'ils ont une chance de renverser Pogacar.
Ok, Simon, t'étais pas d'accord avec Julien à la base, avec Jérôme Pinault, avec David Douillet qu'on va entendre dans quelques instants. Déjà, est-ce que t'as une réflexion sur ma question?
Non, ça va. Sur ta question, c'est-à-dire doit-il tout faire lors de la première semaine? Non, mais parce que quand j'entends les copains, il doit tout faire la première semaine, mais aussi tout tenter la deuxième et tout tenter la troisième.
Ben, oui.
Bah, alors oui, si c'est dit comme ça, évidemment, s'il a les moyens d'attaquer tous les jours, s'ils ont les moyens de harceler les UAE tous les jours, voilà, on en revient toujours à leur chef-d'œuvre du Granon en 2022. Ils vont pas pouvoir, de toute façon, faire exploser la course tous les jours comme ça. Après, je sais pas, je parle sous ton contrôle, Jérôme. Moi, si tu prends le maillot trop tôt, tu risques d'énerver un petit peu la bête, quoi. Moi, j'ai l'impression que Pogacar, il est jamais aussi fort que quand il est dans la position du chasseur. Et je vois pas quel serait l'intérêt des Visma de s'embêter avec la gestion du maillot, notamment dans une première semaine où le parcours est pas si accidenté que ça, mais où c'est déjà nerveux. On a soulevé les risques de bordure. La course va être nerveuse. Pourquoi t'emmerder avec le maillot jaune en plus, si c'est pour pas créer des écarts, tu sais, qui peuvent faire une différence avant les grosses échéances des deux et troisième semaines. Donc voilà, a priori, moi j'ai tendance à dire, renifle-le un peu si tu veux avoir une chance. Regarde comme il est. Moi, si j'étais Vingegaard, j'essaierais de garder l'avantage psychologique et pour essayer de l'exploiter au col de la Lauze, parce que moi j'ai été traumatisé par la défaillance de Pogacar qui, de son propre aveu,
justement, Simon, rappelle-toi cette année-là.
Oui. On l'a fait le tour tous les deux cette année-là. Visma Lease a Bike, à l'époque Jumbo Visma, a harcelé le peloton tous les jours. Tous les jours. Avec du très grand Van Aert. Et ils l'ont harcelé tous les jours. Et il a fini par craquer. Et je suis sûr qu'ils ont le même plan en tête. La preuve en est aujourd'hui. Ils vont faire des actions collectives. J'en suis à peu près persuadé. Mais s'il y en a un qui attaque, ils vont rigoler. Et c'est ce qu'ils veulent. S'il y a un mec qui attaque à 10 bandes de l'arrivée dans une bosse, ce sera Pogacar et pas Vingegaard. Ils veulent qu'il se découvre le plus vite possible, qu'il en ait partout sur la route et que le jour où ils vont pouvoir appuyer un grand coup, ils le feront. Et moi, pour moi, leur stratégie, c'est de déstabiliser Pogacar qui se retrouve seul. Dans un final comme aujourd'hui, il va attaquer. Vingegaard, il ne doit pas attaquer. Il doit juste suivre Pogacar s'il lui démarre pour que Poggi se retrouve peut-être lui avec le maillot jaune, mais dans le même temps avec plus aucun équipier autour de lui. C'est ça leur stratégie. Les harceler encore et encore.
Tu penses que cette année, Pogacar peut se retrouver sans coéquipier autour de lui?
Moi, t'as vu, hier une brise, un virage, une route qui fait 30 mètres de large. Il a qu'un équipier hier, hein. Un seul. Hein.
David Douillet, Jonas Vingegaard, doit-il tout tenter la première semaine?
Oui. Bon, d'abord, même si Jérôme a mille fois raison sur son expertise, mille fois raison. Moi, quand je regarde le tour, il me gave quand il est derrière. Le poisson pilote qui fait rien, qui prend à peine des relais. On l'a vu hier, etc., etc. Ça me saoule. Ça me saoule parce que c'est pas joli. C'est pas, ça reflète pas l'état d'esprit d'un compétiteur. Et on est là. Il est caché au coin du bois et il sortira quand il aura envie de sortir dans la montagne. Bon, voilà. C'est un peu décevant. Et je suis sûr d'une chose, ça a déjà marché sur Poggi, le doute, quand t'assimes le doute, quand t'intimides le doute dans l'esprit de quelqu'un, ça peut te foudroyer, ça peut te flinguer complètement. Et ça, s'ils ne le mettent pas en place dès maintenant, et en particulier Vingegaard, parce que vous parlez de ses équipiers, etc., etc., très bien, mais Il y en a un seul qui pourra complètement planter ce poignard du doute dans le dos de Pogacar, c'est Vingegaard. C'est Vingegaard et l'état de forme de Vingegaard par rapport à ce qui va se passer dans la première semaine avant d'attaquer la montagne. Si ça se passe pas, d'abord ça va être chiant à mourir là pendant tout. On va voir que des sprinteurs, etc., etc. Même si il y a des échappées, même si tout ça. Je pense que la configuration d'hier nous donne déjà le ton sur les étapes de plaine. Et puis ensuite, ça va attaquer la montagne comme d'habitude, etc. Ce qu'aura voulu mettre en place Christian Prudhomme sur un tour très intéressant dès le début, ça sera mitigé. Et puis voilà. Donc le doute, il doit être mis tout de suite, maintenant, et avec Vingegaard aux avant-postes. Moi, j'adorerais, et je trouverais ça avoir beaucoup de panache, qu'un Vingegaard aussi se dévoile sur ses capacités face aux petites bosses qu'on va avoir aujourd'hui, les derniers kilomètres, là, il y a une petite bosse d'un kilomètre 100.
Il y a trois belles bosses dans les 10 derniers kilomètres.
Ce qu'ils ont dans les pattes, les deux.
Trois grosses belles bosses, ouais.
Oui, avant, moi j'aimerais bien les voir déjà au bout d'un coude.
Et avant il y a 50 km vent de côté.
Ouais, voilà. Ouais, mais tu vois moi ce que je trouve intéressant dans l'analyse de David, c'est que il a une culture, David comme la mienne, d'un sport de combat homme à homme ou femme à femme. Et si tu connais pas le monde du vélo d'extérieur, tu te dis Pogacar, Vingegaard. Et en fait, ce que nous explique Jérôme, c'est qu'il y a quand même aussi un duel d'équipe avec des niveaux d'équipe. Et je pense que c'est vraiment ça la lecture qu'il faut avoir. C'est pour ça que sur la question, est-ce qu'il doit se dévoiler, est-ce qu'il doit tout donner, c'est plus que ça, parce qu'il y a vraiment un travail de sous-marin, de pression.
Tu dis n'importe quoi, Fred. Au final, c'est un bras de fer.
Ça y est, t'as plus d'arguments.
Ça y est, bah oui. Non, j'ai un argument, parce que c'est le bras de fer, l'équipe, etc. Tu les emmènes, ils sont là pour les emmener jusqu'à un certain moment. Mais après, le bras de fer, il est là. Tu vas voir en montagne, ils vont se retrouver tous les deux. Vingegaard sera encore derrière.
Mais non, David, c'est un travail de sable. C'est pas un mano à mano. Et c'est ce que t'as dit Simon tout à l'heure.
Les 10 premiers jours là, c'est un travail de sable.
Il y a des gens qui tapent et qui
appuient. Je sais. Quelques secondes.
Je sais, mais ça me plaît pas. Voilà. Ça me plaît pas.
Je reprends la main, Jérôme aura la parole.
Il a quand même perdu 40 secondes.
Dans quelques instants, justement, Remco Evenepoel, on en parle dans quelques secondes. Restez avec nous, on poursuit la discussion. Vingegaard doit-il tout tenter dès la première semaine? On va tout vous dire, évidemment, sur les étapes qui arrivent, étapes passionnantes. A tout de suite pour les grandes gueules du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Simon Dutin, Julien Beneteau, Fred Le Canu. À partir de 10h, on parle du Paris Saint-Germain qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. Ce sera face au Real Madrid, le Real de Kylian Mbappé. Une autre facette peut-être des Parisiens, le mental. Hier à 9 contre 11, le mental est-il finalement le plus impressionnant chez ces Parisiens? On se posera la question et vous n'êtes absolument pas d'accord. Mais j'ai bien compris, Julien Beneteau. Restons un instant sur la deuxième étape du Tour de France. Aujourd'hui, Jonas Vingegaard doit-il tout tenter dès la première semaine? On va accueillir Kevin dans quelques instants. Auditeur, juste aller voir Jérôme Pinault qui est toujours avec nous en direct du nord de la France. Jérôme, quand on voit la défaillance hier de Remco Evenepoel, est-ce que ce genre de choses, ça peut également arriver à Tadej Pogacar? Et très rapidement.
Bah non, Tadej non, parce que Tadej court devant, il est très costaud et il est calé dans la roue de son principal adversaire, ce qui est illogique qui est arrivé hier à Remco, parce que même si c'est une faillite collective, eh bien lui au moins aurait dû être dans la roue des deux grands favoris, il l'a pas fait, c'est une erreur stratégique et peut-être une limite physique.
Ok, donc peut-être une limite physique, donc en tout cas, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que bah on a bien le duel, on s'attendait peut-être à un truel,
évidemment.
Je sais que ça se dit pas.
Non, mais pour compléter ce que disait David tout à l'heure, très court, Vingegaard, c'est lui qui déclenche la bordure hier, et en plus, au passage, il a été chercher un petit point pour la montagne. Le mec, il est dans le game, il est pas là pour acheter du terrain, et il a pas peur de Pogacar, même si il doit tomber, il tombera les armes à la main, hier, c'est lui qui a déclenché la bordure.
Kevin nous appelle au 32-16, bonjour Kevin.
Salut JC, salut toute l'équipe.
Kevin, alors, tu en penses quoi? Est-ce que Jonas Vingegaard doit-il tout tenter?
Eh ben écoute, le problème c'est que je pense exactement comme Jérôme Pinault, et ma phrase d'attaque c'était c'est pas Vingegaard qui doit tout tenter, c'est son équipe. Donc du coup, je vais pas répéter. Alors du coup, j'ai préparé autre chose pour ta dernière JC. Je t'ai fait une petite présentation la manière de tu peux le faire à chaque début d'émission. Alors, salut JC. JC, comme Zinedine Zidane, il part sur un coup de tête. Comme Tadej Pogacar, il est bon sur tous les terrains. Comme le PSG, il est meilleur quand il fait sans Mbappé. Comme Kylian Mbappé, tu lui parles pas d'âge. Enfin, sauf de ceux de Christophe Cessieux, Denis Charvet et Marc Madiot. Comme Roger Federer, il est imbattable sur le gazon. Mais lui, c'est plus sur un green qu'à Wimbledon. Bon, allez, JC, je te laisse parce que j'imagine la régie qui fait des grands signes parce qu'en 5 ans, t'as pas réussi à envoyer une seule fois la pub à l'heure. Allez, ciao JC et au plaisir de t'écouter dans tes futures émissions.
Merci beaucoup Kevin, je m'attendais pas du tout à ça, je pensais qu'on allait débattre tranquillement, mais merci pour tes mots évidemment. Ne t'inquiète pas, cette émission sera encore magnifique la saison prochaine, il faut absolument écouter les grandes gueules du sport. Kevin, revenons à nos moutons, tu voulais dire la même chose que Jérôme Pinault, t'es sûr d'être d'accord avec lui?
Ouais, malheureusement, je suis d'accord avec lui. Je pense que
malheureusement, ça veut dire quoi ça?
Bah, tu peux dire qu'il a
attention à toi.
En fait, il y a Fred qui est d'accord avec nous, Jérôme aussi.
Ah, mais voilà.
C'est la guerre entre Vigneux de Bretagne et Grand Champ des Fontaines, c'est les guerres de clochers. non, clairement, je pense que là, il a l'avantage. On a vu hier que Pogacar sur la plaine, il y avait Tim Wellens et derrière, c'était beaucoup plus en difficulté que l'équipe Visma Liseberg. Et donc je pense qu'il n'a pas intérêt à s'exposer personnellement, il a intérêt à faire des efforts à Pogacar et à l'équipe de Pogacar pour l'user. Et en fait, il faut se rappeler que chaque étape, en fait, c'est pas un reset, c'est-à-dire que tous les efforts qui sont accumulés chaque jour, ça s'additionne et sur la fin du tour, c'est des trucs qui peuvent compter. Alors si Pogacar est vraiment au-dessus de Vingegaard, ça se verra pas, mais si vraiment l'écart intrinsèque entre les deux est pas si grand que ça, bah tous ces petits efforts en plus que Pogacar va faire parce qu'il est plus exposé à cause de son équipe, ça peut payer à la fin. Et je rajoutais un truc, l'élément qu'on pouvait pas anticiper quand on a eu le parcours au mois d'octobre, c'est l'élément du vent. Et le vent, c'est clairement un élément qui fait que le cyclisme c'est un sport d'équipe et non plus un sport individuel. Et c'est dans ce genre de conditions que le fait d'avoir une équipe forte va être un vrai avantage pour Pogacar et sur la durée, ça peut payer. Et je rejoins totalement Jérôme sur le fait que oui, le col de la Lauze, quand il avait eu sa défaillance, c'était aussi parce qu'il avait été harcelé avant. Et je pense que ce harcèlement d'équipe peut lui faire entrer, rentrer Vingegaard dans la tête de Pogacar. Et si on peut avoir un Matteo Jorgensen que j'ai trouvé très bon hier, qui résiste un peu sur le contre-la-montre et qui est pas loin en général, ça peut donner une arme de plus parce que la première victoire de Vingegaard, il y avait Roglic et Vingegaard qui l'avaient harcelé sur une étape. Et si on peut avoir Jorgensen qui peut un peu titiller et forcer Pogacar à s'exposer, bah ça peut être qu'un plus.
Ah, tu vois, t'avais plein de choses à dire, Kevin. On aurait dit Marion Bartoli. Bravo, mon cher Kevin. Ah, reste avec nous quelques instants.
Elle a demandé, elle a voulu être tranquille. Belle perdue.
Voilà, et on l'embrasse. Non, mais on parle beaucoup depuis quelques semaines d'avantage psychologique. Et on se disait, avec le critérium du Dauphiné, on en a fait des débats. Ben voilà, Pogacar, il a un peu tué le game. Et on a l'impression qu'en cette première semaine, Simon, eh ben, Vingegaard, il peut reprendre cet ascendant psychologique.
Oui, on a l'impression,
non.
Ouais. Ça a démarré hier. Alors bon, si on se base sur les déclarations, en effet, il arrive plein de confiance. Moi, j'aime bien cette façon de dire, bon, c'est pas parce que il a été imbattable cette saison que je pense que je peux pas le battre. Si je suis là, c'est parce qu'il me fait pas peur, tout ça, tout ça. Là où moi, je suis pas d'accord avec Kevin, c'est que quand tu prends 6 minutes dans le col de la Lose, c'est pas uniquement parce que les moustiques sont venus t'attaquer durant toute la semaine. Je pense que sur ces pentes-là, il a un véritable ascendant psychologique. Je pense qu'il doit attendre les Pyrénées avant de se livrer, qu'il doit faire très attention. S'ils veulent embêter tout le peloton et tenter des coups de bordure avec son équipe, Jérôme a suffisamment rappelé qu'ils ont les moyens de le faire. Je le vois pas faire d'écart suffisant sur Pogacar, même s'il est arrivé à piéger Pogacar dans une bordure. Je le vois pas créer un écart suffisant. Je te dis, à part énerver la bête, tu vois, l'agacer un petit peu et lui donner envie de prendre sa revanche dès les Pyrénées, je vois pas quel intérêt il aurait. Alors montrer qu'il est là, montrer qu'il contrôle la course, montrer que c'est pas lui qui se fera piéger, mais que c'est peut-être lui qui a les moyens de le faire. Oui, pourquoi pas. Mais je vois pas quel intérêt il aurait à prendre le maillot trop tôt.
Mais il va écarter les autres, mais c'est pas forcément une volonté de prendre le maillot. Ils peuvent essayer de reprendre du temps un petit peu sur Pogacar comme ils ont pris sur Evenepoel, mais c'est plus difficile. Derrière, laisser passer partir une échappée avec des mecs. Laisser le maillot, c'est pas prendre le maillot, mais tous les spécialistes, il y a Jérôme Pinault qui disait ok, sur après le Dauphiné, bon, Vingegaard, il est pas encore à mon avis à son prime, il lui reste encore 3 semaines et les 2 dernières semaines du Tour, c'est que dans 4-5 semaines il peut monter, mais tous les spécialistes du cyclisme disent que Pogacar, il a mis un coup derrière la tête à tout le monde au critérium.
La preuve que non hier. Hein.
Oui, non mais. Pourquoi ? Parce que je pense que la seule façon d'essayer de contrer cet ascendant que Pogacar a pris vis-à-vis de tout le monde depuis le début de la saison, puisqu'il gagne pratiquement partout, c'est justement ce que fait la Visma. C'est dire, ok, Coco, maintenant, même si on te reprend 0 seconde, on va y aller. Et là où Simon, en connaissant Pogacar, c'est pas parce que la Visma va l'astiquer tous les jours et le titiller que ça va lui donner encore plus envie d'aller mettre une mine dès la première étape, que ce soit le 14 juillet ou dans les Pyrénées.
Il fait toujours ça,
Pogacar.
David Douillet.
Il y a quelque chose qui me gêne dans votre discours, c'est que vous prenez Poggi pour un neuneu. C'est-à-dire que ouais, c'est une bête. Et voilà, on va lui picouter. On va, enfin, excusez-moi.
Oui, je vous vois. Pas de picou. Ah,
on va le titiller.
David, on va
inviter. Excellent. On va le titiller et il va réagir bêtement parce que c'est un primaire. Voilà, si on vient le titiller, il va forcément vous contrer, etc., etc. C'est l'inverse. Moi, ce mec, il est hyper intelligent. Il est pas là par hasard. Il est hyper intelligent. Et donc, forcément, il faut se poser aussi la question et raisonner à sa place. Est-ce que je vais tomber dans tous les pièges de la Visma ? Est-ce que je vais tout le temps être devant à couper le vent pour Vingegaard, mon poisson pilote préféré ? Est-ce que moi aussi, je ne vais pas adopter une stratégie où je vais faire croire que je suis un petit peu derrière, je suis un petit peu là, je suis un petit peu ceci, cela, où mes coéquipiers ne sont pas avec moi, qu'on est un peu plus faible, etc. Attention, les stratégies fonctionnent aussi de l'autre côté et en sens contraire.
Moi, ce que je comprends sur le truc, c'est que on a l'interprétation là de se dire peut-être que Pogacar il va avoir peur ou ça va créer quelque chose d'émotionnel. Et à mon avis, il n'y aura rien d'émotionnel chez lui. Il aura peur de rien. Par contre, la Visma de l'autre côté, ce qu'ils veulent, c'est l'étouffer.
Exactement.
C'est laisser rien, pas un millimètre, que dalle. Et la moindre erreur sera fatale.
Et c'est pour ça, la question, c'est le
boa constrictor.
Ouais, c'est là-dessus, je suis d'accord avec toi, Jérôme. On revient là-dessus, c'est ça la question.
C'est la question du faut-il le harceler tous les jours? Oui. Et pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas le choix.
Sur une étape avec le vent de côté, donc bordure. Ça part souvent de très loin. 50, 60, pourquoi pas 70 km. Nous, avec Omega Pharma, on avait fait 100 km. S'il l'isole, et que les écarts sont conséquents et que Vingegaard, il est avec trois gars et que Pogacar, comme hier, il en a plus qu'un. Il faut pas qu'il lui arrive un problème, hein. Parce que s'il lui arrive un problème dans une étape avec des cassures, des bordures et que ses coéquipiers sont à toute heure à 3-4 minutes, il a beau être le plus fort du monde, le vent de côté et un collectif bien huilé, tu ne peux pas lutter. C'est pas un col. Là, c'est vraiment sport collectif.
C'est de la voile.
Et c'est là où il est en danger. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut harceler Pogacar grâce à ce vent. Parce que s'il n'y a pas de vent cette semaine, c'est pas la même. Mais là, il y a du vent. Et ils en annoncent tous les jours jusqu'à la fin de semaine. Donc, c'est là, dans ces moments-là, que Visma doit saisir peut-être la seule opportunité qu'ils ont de pourquoi pas le faire pas douter, mais en tout cas qu'il soit moins sûr de sa victoire. Ben, c'est la seule solution, donc il faut y aller tous les jours.
On le dit souvent, c'est extrêmement difficile de prévoir la course, hein, ce sont les coureurs qui la font. Cette course, on peut mettre n'importe quel plateau, n'importe quelle difficulté. Au final, si les coureurs n'ont pas envie d'y aller, bah, il ne se passera rien. Jérôme, ton avis d'expert, là, s'il y a une étape là cette semaine où ça peut vraiment bouger, tu miserais sur laquelle et pourquoi?
Alors moi, il y a deux types d'étapes. Il y a celle d'aujourd'hui qui va être très compliquée, fort vent de côté, des bosses d'un kilomètre, une étape très longue sur des petites routes. Donc ça peut être très très dangereux. Et puis l'étape qui va nous mener à Vire-Normandie, parce que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est quand même un peu plus à l'abri dans le bocage, mais il y a des grandes plaines bien découvertes. Et en plus, c'est difficile. C'est-à-dire que aujourd'hui et dans trois jours en Normandie, il va se passer quoi? On va monter des côtes et au sommet de ces côtes, c'est pas forcément des descentes, c'est des plaines exposées au vent et principalement avec un vent de côté. Et ces étapes-là, eh ben, elles sont très difficiles à gérer parce que hier, ce qui s'est passé, il y a eu une seule bordure et la télé au bout. Mais souvent, bien souvent, dans une étape où il y a des bordures, ben, on s'y prend à 3, 4, 5 fois. Il y a regroupement et ça recasse et il y a regroupement et ça, c'est épuisant. Et quand on a vu hier ce qui s'est passé sur l'équipe de Lidl Trek, l'équipe de Soudal Quick-Step et surtout l'équipe UAE avec seulement Tim Wellens, on peut se dire qu'il peut y avoir un petit basculement des forces dans ces deux étapes-là.
Oui, et puis comme tu dis, moi je pensais pas que c'était aussi pour les non-initiés, enfin entre guillemets comme toi ou les spécialistes. Quand tu dis que c'est épuisant, on a pu le voir hier. Simon Yates, il a pris 6 minutes quand même. Il a pas réussi à revenir.
Le petit débat, oui,
et Lenny Martinez, bon, on en parle même pas.
Bon, lui, il était à côté des. Ouais, non, bon. Il était à côté.
Mais c'est un. Enfin, je veux dire, ça marque autant qu'un grand col, quoi. De temps en temps, c'est.
Aujourd'hui, les garçons, juste le chiffre, c'est 2500. Plus de 2500 mètres de dénivelé positif. C'est-à-dire que c'est largement, en dénivelé positif, c'est largement une étape de moyenne montagne. Alors c'est différent.
Oui, bien
mais
sûr.
En plus de ça, il y a du vent et souvent de côté.
Et de la pluie.
Ouais, donc c'est casse-pas, donc c'est extrêmement compliqué, c'est ce que tu veux nous dire, évidemment. Ouais. Sachez qu'il y aura l'intégral tour à partir de 13h. Avec évidemment Christophe Cessieux, Jérôme Pinault, Jérôme Coppel, Pierre-Yves Leroux, Maria Azé sur la moto. Mais oui, ça va être incroyable. Merci, mon cher Jérôme, d'avoir été avec nous ce matin.
Cette
étape, l'arrivée à Boulogne-sur-Mer, c'est évidemment un moment toujours incroyable. Le Tour de France, il peut se passer des choses, et notamment aujourd'hui. Jérôme vous l'a promis, on sera fidèle au poste, en tout cas, d'RMC. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler peut-être de Lyon. Enfin, c'est le zapping des GG, on s'en fout pas. Vous me direz si ça vous intéresse. En tout cas, Lyon doit trouver de la caillasse. Je sais que ces débats budget, ça intéresse David. J'espère que David, ça l'intéresse. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h47, de retour dans les grandes gueules du sport avec les GG ce matin. Fred Le Canu, David Douillet, Simon Dutin, Julien Beneteau. À partir de 10h, le Paris Saint-Germain qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. Ce sera face au Real Madrid de Kylian Mbappé. Restez avec nous, évidemment, vous pouvez participer au 32-16. 10h45, c'est à vous de prendre les commandes de cette émission, mes GG. Les GG contre-attaque.
Incroyable le bruitage. T'as des talents cachés.
Bah écoute, je vais peut-être me lancer dans le cinéma. Peut-être. Comme Fred Weiss. On verra. Donc les copains, vous nous prévoyez un petit débat. Vous avez 20 secondes pour nous le vendre. Simon, tu commences.
Est-ce que la victoire de l'équipe de France féminine de football hier face aux championnes d'Europe en titre pour leur entrée en lice dans cette Euro, victoire qu'on n'avait pas vu venir, hein, qu'on n'attendait pas, puisqu'on a parlé quand même beaucoup d'autres choses cette semaine, et notamment des choix un peu discutés, discutables de Laurent Bonadei, le nouveau sélectionneur. Est-ce que cette victoire va booster votre intérêt pour la suite de cette compétition, puisque on a avoué ici hier que ça manquait un petit peu de voilà d'intérêt.
De sel, mais avec une victoire, et c'est ce que nous disait d'ailleurs Fred Weiss, peut-être que tout est reparti.
Exactement.
Très bon débat, vous pouvez aller voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Julien Beneteau.
Alors moi, contrairement à tous mes collègues, je n'ai pas choisi du football parce que je veux pas gagner.
Mais ça gagne jamais le foot.
Si ça gagne tout le temps,
comme d'habitude, Julien, comme d'habitude.
Alors là, il y a cinq semaines, tout le monde était dithyrambique sur cette finale à Roland-Garros entre Alcaraz et Sinner. On est à la moitié de Wimbledon. Les trois sont toujours là. Je voudrais savoir parmi les auditeurs, qu'est-ce que vous voudriez voir? Une autre finale Alcaraz-Sinner, et ce qui deviendrait un classique et le classique des temps modernes. Voir comment Sinner va rebondir. Ouais, je vais teaser longtemps parce qu'il faut que je gagne.
Vas-y.
ou Djokovic qui a passé en finale face à Alcaraz.
Je vote pour Alcaraz.
Parce que Djokovic,
bien sûr.
Il a passé la première semaine en pantoufle. Centième victoire à Wimbledon. Il est là, il est présent. Est-ce que vous ne voudrez pas le voir gagner son 25e Grand Chelem à Wimbledon face à Alcaraz?
Ok, merci pour cette proposition, Julien. Fred Le Canu.
Eh ben moi, j'aurais justement aimé parler du Paris Saint-Germain et Nasser El Khelaifi qui profitait cause pour Dembélé. Et on va pas parler football, Julien. On va parler philosophie.
Il choisit la facilité.
Le PSG, Nasser et Dembélé.
David,
attendez, laissez les petits camarades.
David, prends le temps d'écouter la question. Tu vois, il n'est pas si simple que ça pour toi.
Non, mais c'est parce que tu n'as jamais gagné de débat.
Attendez, vas-y.
Alors, écoute bien, David. Est-ce qu'il ne se trompe pas de poule, hein? D'accord? Est-ce qu'il n'aurait pas dû choisir Hakimi? Parce que tu vois,
voilà. Vitinha,
non, Vitinha, non, Hakimi, tout simplement parce que c'est un joueur exceptionnel.
Je vais te couvrir ta présentation, Fred.
T'as déjà pourri ma vie.
Je vais te couvrir ta présentation.
Ma vie et ma carrière. Je ne sais même pas pourquoi je te retrouve ici.
Donc,
déjà.
Tu parles de foot ou d'équitation?
Ok. Hakimi, Ballon d'Or, allez voter pour Fred Le Canu.
Parce que c'est quand même mieux Ballon d'Or que but d'or.
Le cheval de Fred Le Canu.
Douillet m'a pourri mon existence.
C'est ma dernière. Attendez. C'est ma dernière. Je vous tiens plus. C'est ça, les gars. Tout le monde fait ce qu'il veut. OK? Il y aura un nouveau chef à la rentrée. Attention, hein.
Eh ben, qui le vient Douillet?
David Douillet, ta proposition.
Moi, c'est simple. On parle de foot. Ben oui, c'est très simple. Ben c'est pour ça que je fais ça pour toi, pour que tu comprennes.
Oui,
sinon, ça va pas. Voilà. Donc, on voit du cyclisme, on voit de la F1, on voit ce week-end en particulier. Il y a une actu foot. Mais tout ça derrière, il y a des gros financeurs. Et en particulier ceux du Moyen-Orient. Le foot, Manchester, PSG, Newcastle, la F1. McLaren, le plus gros sponsor d'Aston, c'est aussi, ça vient aussi du Moyen-Orient. Je vous parle pas de l'UAE et de l'équipe Bahrain Victorious. Enfin bref, pourquoi ces investissements massifs viennent du Moyen-Orient et pourquoi dans des sports comme cela? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que ça va être une opportunité pour le sport de favoriser un développement, ou alors est-ce qu'il s'agit de géopolitique? De soft power et jusqu'où ça va aller, okay. Et est-ce que ça peut dénaturer les valeurs sportives? Okay.
Tu peux donc t'aider sur le ChatGPT pour faire ta question, David, hein. C'est l'intelligence artificielle, c'est pas toi, ça. C'est pas toi, David, c'est le ChatGPT, je te reconnais.
Alors ça va faire un bon.
Alors tu vois, et vu vos réactions, je sais que je suis en bonne position, parce que comme vos sujets ils sont nuls, vu vos réactions, vous avez tous peur. Voilà, je suis le Pogacar du débat caché.
On dira un discours ministériel.
C'est la récré, hein, ce matin, décidément. Vous allez voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport, évidemment, les amis. Allez, on s'en fout pas.
Le zapping des Grandes Gueules du Sport.
Plusieurs informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première, la DNCG qui réclame une somme astronomique pour que Lyon reste en Ligue 1. On s'en fout, on s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Fred Le Canu.
On s'en fout pas.
David Douillet.
On s'en fout pas du tout.
Julien Beneteau.
Je passe.
Rétrogradé administrativement en Ligue 2, vous le savez, l'Olympique Lyonnais doit impérativement injecter 100 millions d'euros dans ses comptes d'ici jeudi prochain, mais aussi apporter 100 millions supplémentaires de garanties pour la saison à venir pour espérer se maintenir donc dans l'élite. Selon nos informations, Michel Kang, nouvelle présidente de l'OL, et le fonds d'investissement Ares, déjà prêteur auprès du groupe de John Textor pour racheter l'Olympique Lyonnais, eh bien devrait se partager cette ardoise. Fred Le Canu.
Moi, je suis choqué d'entendre des chiffres que je ne comprends plus. Je comprends rien. Et à un moment donné, je me demande ce que font les grands de ce monde, quand même. Parce que là, pour revenir sur l'argent, un coup, c'est 100 millions. Un coup, c'est 200 millions. Un coup, voilà. Alors, on parle de sport pro. Moi, je trouve que, voilà, on fait opposition sport pro, sport amateur. Ben, je les trouve pas très professionnels, ces gens-là. Et puis, à un moment donné, ce qui m'agace, c'est que j'ai l'impression d'avoir des gens qui jouent. Textor, tu vois, il annonce des trucs. Il dit, non, mais tout est sous contrôle. Finalement, il est désavoué. On parle de sommes astronomiques, tellement grandes que c'est le monopoly du monde, quoi. Tu comprends plus rien. Moi, je suis hors sujet sur la taille, je suis hors sujet. Ça représente plus rien pour moi. Et aujourd'hui, je pense que ce sont des gens qui devraient vraiment, même un système qui devrait se remettre en question, parce que ça va trop loin. Il devrait y avoir des garde-fous. Ça ressemble plus à rien. Le gars, il dit, non, vous inquiétez pas. Je vais rembourser. On va trouver 200 millions. Bon, bah, 400 millions, 1000 millions. Allez, pourquoi pas. Voilà.
C'est OK. David Simon, vous voulez réagir?
Bah 100 c'est oui. Beaucoup, 200 c'est beaucoup, voilà, il va falloir les trouver, plus. Et si jamais ces gens-là réussissent à les trouver, ça augure quand même une saison très compliquée la saison prochaine, parce que pour les trouver, il va falloir vendre encore deux ou trois joueurs, je pense à Péry le gardien, à Fofana, ça risque de pas suffire pour atteindre les 100, avec quelle équipe tu repars, quel salaire tu proposes, donc oui, c'est catastrophique.
David.
Moi, ce qui me catastrophise, ça rejoint mon débat. Qui est capable aujourd'hui d'avoir une équipe en L1 digne de ce nom, si ce n'est un fonds souverain, un pays du Moyen-Orient, ou
il fait le lien.
Je pose la question. Ou qui? Bah oui, je suis déjà dans ma contre-attaque, bien sûr.
Alors, parce que
là, vous parlez. Non, mais vous parlez de réinjecter. Et moi, je trouve que la DNCG est assez passive, qu'elle attend les résultats, etc., etc. Parce que il me semble, et c'est à vérifier, j'avais un chiffre en tête, mais on est déjà sur une dette à la fin de l'année dernière qui est l'ordre du demi-milliard pour Lyon. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? 500 millions d'euros, quasiment. C'est un truc de malade. Donc pourquoi on laisse ces clubs et de quelle manière des gens comme Textor, qui sont des enfumeurs de première, sont capables de faire gober à des instances qui normalement savent maîtriser les chiffres, je parle de la DNCG, qui vont être capables d'eux, alors que c'est pas le cas. Et voilà où on se retrouve aujourd'hui. Donc à un moment donné, ça suffit, quoi. Il va falloir réglementer un peu plus ça.
Allez, troisième information dans le zapping des GG, vous donner deuxième, pardonnez-moi. C'est le projet fou de Donald Trump avec du MMA à la Maison Blanche. On s'en fout, pas. Julien Benneteau.
Allez, on voit la pub.
Ok, à la poubelle. Simon Dutin.
Je m'en fous.
Ok, Fred Le Canu.
On s'en fout pas du tout.
Ok, David Douillet.
Ah, Fred, il va se placer avec
moi,
Donald.
Moi, je m'en fous pas. Je m'en fous pas.
Ah, oui, les sports de combat, ils veulent aller avec Donald à la Maison Blanche.
Ah, vous savez quoi? On va t'expliquer le contraire.
Vous savez quoi? Si ça intéresse les deux judokas, ça veut dire que ça intéresse que les judokas. Donc, je vais envoyer la pub, les copains. Je suis désolé, j'ai plus le temps.
Il est enroulé pour
ça. Tu sais quoi, David? Je sais où il habite.
Allez voir ça sur rmcsport.fr, c'est savoureux en tout cas. Il y a Conor McGregor qui a déjà envie de combattre à la Maison Blanche, dans les jardins de la Maison Blanche, paraît-il que c'est possible. Allez, on se retrouve dans quelques instants.
Enfin bon, juste pour dire que c'était n'importe quoi, voilà.
Bah voilà, c'est parfait, c'est dit.
C'est plus simple quand tu parles comme ça, David. Édito. On comprend mieux.
On se retrouve dans quelques instants pour le Paris Saint-Germain qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs face au Real de Kylian Mbappé. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.